Renault.
L'autre jour, un chef d'atelier Renault me demande « Monsieur José, vous pourriez nous aider à recruter pour le service après-vente » Et le voilà qui me parle de ses métiers de plus en plus technologiques, avec des formations régulières, bref, le gars passionné. Moi je dis, il ferait mieux de parler à ma place.
Les ateliers Renault Car Service recrutent des mécaniciens, électromécaniciens et carrossiers, débutants ou confirmés. Postulez sur recrutement-réseau.renault.fr. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Source l'Automobile Magazine 2023.
RMC Running,
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast d'RMC dédié à tous les passionnés de la course à pied. Alors chaque semaine, tu vas retrouver ici un portrait de coureur inspirant, obtenir des conseils d'entraînement et bénéficier de bons plans d'ossard ou matos pour rester motivé avec le grand, l'unique, Yoann Durand, marathonien membre de l'équipe de France. Salut Yodu.
Salut à tous, salut Benoît, ça va?
Exilé à Font-Romeu, ça y est, tranquille, dans les montagnes, quoi. C'est bon.
Tranquillement, ouais, ça tranquille, va on va pouvoir bien débriefer.
La question, est-ce que tu cours?
Ah oui, bien sûr. Ah. Bien sûr, j'ai repris.
Excellent. Très bonne nouvelle. Épisode particulier cette semaine, c'est l'After Marathon de Paris. Oui, on est sur RMC, donc il y a l'After, forcément. On va débriefer la plus grande course de France avec les deux meilleurs Français de cette édition 2023, Anaïs Kemener et Mehdi Frère. Également présent, Faustin Guigon, coureur de haut niveau lui aussi, partenaire d'entraînement de Mehdi. Thomas, auditeur fidèle d'RMC Running, qui sera présent également. Il était avec nous au Run Experience la semaine dernière. Et puis on sera avec Greg Vermersch, le responsable français de Strava. Voilà, on fera le point sur les tendances de cette 46e édition. La séance d'entraînement, Yodu, sera d'actualité. C'est la phase de reprise après un grand objectif. Est-ce qu'on peut s'envoyer un cross 3 jours après un marathon? C'est la question qu'on se posera.
Ça, il faut demander à Mehdi. Voilà.
Et puis un bon plan matos et un bon plan dossard. Le matos, ce sera X-Socks, des chaussettes de sport spécialisées dans le running, le trail et la randonnée. Et les dossards, ça sera 10 dossards pour le semi-marathon de la Loire à Saumur le 14 mai. On n'oublie pas les rappels importants, vous nous suivez sur les réseaux sociaux, Instagram, Strava et Twitter, vous vous abonnez, vous laissez des notes sur les plateformes de téléchargement. Et encore une fois, on a une belle annonce à vous faire en fin d'épisode. Allez, enfilez vos baskets, attachez vos lacets, c'est l'heure du débriefing.
Mais direction Paris, également avec le marathon de Paris.
Pas de nouveau record, mais une belle course sous le vent et sous la pluie.
Oui, les conditions météo sont difficiles, un peu de vent, un peu d'humidité et une fin de parcours modifiée, donc a priori pas de record sur les épreuves masculines et féminines.
52 000 participants, dont 43% de néophytes de la distance. Au finish, des temps complètement fous pour les premiers compétiteurs.
Côté professionnel, surprise chez les hommes.
Cadre de la discipline a priori, Abeye Ayana, ouais. 20 ans, éthiopien, premier marathon. Il avait fait deux semis en dessous de l'heure, deux semis en 59 minutes, mais c'est lui qui s'impose sur cette 46e édition du Marathon de Paris.
Heureusement qu'il y avait du monde tout le long du marathon pour m'encourager. D'ailleurs, je les remercie parce que franchement, c'est super dur.
C'était magnifique, l'arrivée du marathon de Paris, notamment l'arrivée de la course féminine, une arrivée au sprint après 2h23 d'efforts. Et finalement, c'est la Kenyane Ella Kiprop qui s'impose.
Tous les spectateurs qui étaient au bord de la route, si j'avais abandonné, ils n'auraient pas été contents. Alors que regardez à l'arrivée,
c'est incroyable. Levez les bras, raise your arms.
Rendez-vous le 7 avril 2024 pour la 47e édition.
Et voilà, c'était magnifique cette 46e édition, la couverture sur RMC, on était ravis avec Yoann Durand. Je vais faire l'appel, Yoann, si ça ne te dérange pas. J'ai dit semi ? Ouais, marathon. Ouais, c'était le marathon de Paris, évidemment. L'appel, est-ce que tous les invités sont là ? Anaïs Kemener, est-ce que tu es là ?
Je suis là.
Salut Anaïs. Mehdi Frère est là, salut Mehdi.
Salut Benoît, bonjour à toutes et à tous.
Faustin Guigon est là également, salut Faustin.
Bonjour à tous, merci pour l'invitation.
Bah avec plaisir, et on accueille Greg Vermersch de Strava également, salut Greg.
Salut, merci de m'inviter encore une fois.
Et il est là, voilà. Greg. Et j'ai une surprise pour vous tous. Nous sommes en direct avec Charlie Bancarel, 93 ans, doyen de cette 46e édition. Il a bouclé le marathon en 7h22 et il est avec nous en direct. Salut Charlie, comment ça va?
Salut, ça va très bien, merci.
Bah bienvenue, retour dans le Cantal du coup Charlie. Ça va, la récup se passe bien?
Oui, je suis de retour dans mon département là pour respirer l'air pur, c'est merveilleux.
Bon, alors, Charlie, racontez-nous ce marathon de Paris, comment ça s'est passé? Est-ce que vous êtes satisfait de votre performance? C'est magnifique, bravo en tout cas.
Oui, bon, merci beaucoup de m'interviewer. Je suis vraiment content d'être arrivé, bien sûr, au bout d'un certain temps. Mais enfin, je n'étais pas trop fatigué, ça a été assez bien. J'ai bien géré tout ça. J'avais appréhendé au départ parce que faire la distance aussi importante, mais je l'ai bien géré. J'ai été accompagné par mes petits-enfants, ma petite fille qui m'a fait ce qu'il fallait faire. Avec, elle allait me chercher du ravitaillement, de l'eau, etc., etc., pour que je m'alimente bien. Et bravo. Surtout que je boive, parce que boire, c'est important. À un moment, bien sûr, un docteur qui me suit, et il m'avait dit, Charlie, tu bois pas assez pendant le marathon. Il faut quand même boire pas mal, et c'est ce que j'ai fait, et je pense que ça a été bénéfique.
Charlie, doyen, oui. Mais pas dernier. Charlie, 50 000 et 69e place, voilà, donc, voilà. Alors, sur 51 101 participants.
C'est ce que je voyais après l'arrivée, comme j'étais resté un petit peu sur la ligne d'arrivée, parce que je connais très bien le speaker qui annonce les départs et les arrivées, là, monsieur,
je sais pas si
vous le savez, Marc Maury.
Ouais.
Il est du Cantal, lui aussi.
Ah bah voilà, donc, magnifique.
Voilà, exactement, et qui m'a bien sûr applaudi et interviewé.
Bon, eh ben, félicitations encore. Merci, Charlie, d'avoir été là. Il y a un bravo. Nouveau défi qui s'annonce pour vous. Hein, c'est le marathon pour tous, hein, Charlie.
Félicitations, monsieur.
Ah oui, c'est l'année prochaine, ça.
Ah oui, l'année prochaine, en 2024, pour les Jeux Olympiques.
Au mois d'août.
Il n'est pas au printemps, il est au mois d'août, le marathon.
Ah, il est au mois d'août, ouais. Il y aura des petites surprises. Hein, ça va monter un peu. Ça va ressembler au Cantal, hein, finalement,
et
Charlie.
Il va faire chaud.
C'est certain. Bon, j'essaierai de bien me gérer parce qu'il faut quand même s'entretenir. Ces temps-ci, au printemps, il n'avait pas fait très, très, très beau, là, cette année. Et c'est pour ça que je n'ai pas trop couru. Mais enfin, je l'ai géré puisque dans mon garage, j'ai ce qu'il faut. Le vélo d'appartement.
Magnifique.
Exactement, un peu de tout. Et maintenant, pour récupérer, vous voyez, par exemple, ce matin, j'ai été faire un petit tour. Et
voilà,
l'après-midi, là maintenant, je vais faire une trentaine ou 40 km de vélo.
Ah oui, bravo. Ah ouais. Et Charlie, tiens, on en profite. Là, on est en direct avec le meilleur français et la meilleure française de ce marathon de Paris, Mehdi Frère, voilà, qui a fait 2h11, c'est ça Mehdi?
Oui.
2h11.
Et Anaïs Kemener, qui elle a fait 2h32. Est-ce que vous voulez leur dire quelque chose, un petit mot, je ne sais pas, voilà.
Bien sûr que je veux leur dire un petit mot, je ne mérite pas d'être avec elle, avec
eux. Ah bah si, bien sûr.
Je sais, tout à fait un petit minus par rapport à elle, je les félicite, ça a été super. Malgré, je pense, le temps qu'il faisait, ce n'était pas bien agréable. Au départ, nous avions une pluie vraiment importante quand on est parti au départ.
Des Champs-Élysées.
Et après, ça nous a peut-être un peu gêné, mais enfin, ça a été vite évacué parce qu'après, il y a eu du soleil. Nous sommes arrivés à nous sécher et à l'arrivée, ça a été très bien.
Exactement. Et enfin, Mehdi, Anaïs, est-ce que vous voulez dire un mot à Charlie du coup?
Oui, permettez-moi de vous adresser toutes mes plus sincères félicitations. Franchement, un immense respect. J'espère avoir votre santé à votre âge. J'espère pouvoir continuer à courir aussi longtemps.
C'est clair.
Franchement,
c'est
incroyable.
Clair.
Incroyable.
Ouais. Voilà. Merci Mehdi, ça me fait vraiment plaisir que vous me disiez un petit bout, parce que vous savez, des félicitations, j'en ai eu tout le long du parcours, même c'est la première fois que je voyais autant de monde, autant à crier Charlie, Charlie, Charlie.
Ah ouais, c'est bon, ça.
Ça me faisait mal au cœur d'être comme ça, de cette manière-là.
Ah non, c'est beau.
On ne devrait pas avoir le droit de que ce soit comme ça, mais enfin, il en est ainsi. C'est les gens qui jugent notre participation et qui voyaient que je courais assez bien, mon Dieu.
Non, mais Charlie, faut se rendre compte que vous êtes un exemple. Vous rendez compte, 93 ans, boucler un marathon.
C'est master quoi, du coup, 93 ans?
C'est super master.
9, peut-être.
Super master, là. Il n'y a plus de classement, c'est sûr.
Là, il n'y a plus de classement. Non, c'est certain. Le classement, il se fait tout le long du parcours avec tous les applaudissements. C'est impensable.
Exactement. Alors, Anaïs, je ne sais pas si tu veux dire un mot à Charlie, du coup.
Ah oui, moi je suis totalement admirative de ce qu'il fait. Franchement, chapeau, vraiment chapeau, parce que comme le disait Mehdi, moi j'aimerais pouvoir en faire autant à son âge. Vraiment, bravo.
Si, en continuant à le faire, vous êtes un exemple. On veut essayer de vous rattraper, mais on n'y arrive pas.
Exactement. Après, le désavantage que vous avez, Mehdi et Anaïs, c'est que vous avez commencé tôt. Charlie a commencé à 70 ans, la course.
À 70 ans, donc, voilà, exactement.
C'est ça la différence. Il faut tenir la distance maintenant. Charlie, merci beaucoup d'avoir été là, c'était très sympa. Bonne récup. Bah,
puisque vous voyez, j'abandonne pas comme ça. Par exemple, le 1er mai, je vais faire une course
magnifique.
Au Puy-en-Velay de 15 km.
Oh là là, bravo. Ouais. Et bien alors, bonne prépa. Bonne prépa, Charlie. Et à bientôt dans RMC Running. Merci beaucoup.
Allez, merci beaucoup à vous.
Au revoir.
Au revoir, Charlie.
Bonne journée. Au revoir. C'est pas la folie, ça, Charlie Van Carel, quand même. 93 ans.
Il enchaîne les 15 km.
C'est un phénomène. Hein.
Ah, non, mais ça me rend fou. C'est dingue. Et on a vu les images, l'émotion qu'il a eue à l'arrivée. C'est un des personnages de cette 46e édition. C'était magnifique. C'est vraiment un exemple, hein, un exemple pour nous tous de se dire c'est possible à cet âge-là encore de faire quelque chose.
J'avais suivi sa performance déjà au semi-marathon de Paris,
Fait,
et j'avais déjà trouvé ça incroyable, et je me demandais comment il allait faire un marathon.
1h12, je crois, au semi-marathon. Non, je sais
pas. T'imagines ? Ouais, à peu près.
Pas loin. Ouais. Non, mais là, c'est incroyable.
Bon, parlons de ce marathon de Paris. Donc, je le disais, 52 078 participants, 98% de finishers, je trouve ça énorme là aussi, parce qu'il y avait énormément de néophytes. Hein. Ça a tenu toutes ses promesses, même si les conditions météo était un peu délicate. 43% de personnes qui découvrent le marathon. On était surpris, Johan, quand on l'a appris, hein, souviens-toi.
Ouais.
Tous ces dossards dorés, on s'est dit, mais c'est dingue, en fait, le renouveau du marathon. Quoi. Voilà.
Bah, c'est le renouveau du marathon ou c'est aussi le virage qu'a pris le marathon de Paris en étant un marathon un peu pour les primo-marathoniens, des mecs qui se lancent des défis, qui plutôt qu'aller sur des marathons beaucoup plus rapides, style Berlin, Valence, Séville ou Londres, eh ben, préfèrent venir sur le marathon de Paris, histoire de découvrir la ville et de se lancer dans l'aventure du marathon. Donc c'est chouette, hein. C'est vraiment bien pour Paris. Hein.
Alors au niveau des perfs, chez les hommes, victoire de l'Éthiopien Abeye Ayana, 20 ans, 73 ans de moins que Charlie Van Carel, 2h07 minutes et 14 secondes. Et chez les femmes, c'était fou, on était à côté, Johan. Je ne sais pas si depuis vous avez vu les images tous, mais arrivé
au sprint,
c'était dingue.
Oh, le sprint,
et la victoire de la Kenyane Ella Kiprop, bon, elle a déjà des références, elle avait gagné Séoul en 2014, Tokyo en 2016, elle gagne en 2h23-19, un tout petit peu avant Anaïs Kemener, évidemment. Mais en tout cas, belle performance et très belle édition. Honneur aux dames, hein, messieurs, vous n'allez pas m'en vouloir, on va donner la parole à Anaïs, donc, qui a réalisé ce magnifique RP, 2h32 et 12 secondes. Anaïs, on est ravis pour toi, on avait raconté ton histoire dans RMC Running, tu as un profil particulier, tu ne cesses de progresser. Et on parlait d'exemple, toi tu es un vrai motif d'espoir aussi, parce qu'on se dit, quand on s'y met à fond, qu'on s'entraîne et qu'on met de la détermination, on peut aller au bout des choses. Déjà, ta première réaction, est-ce que tu es satisfaite de ta perf et de ton chrono, Anaïs, alors ?
Oui, bah, je suis plus que satisfaite parce que je mets 5 minutes à mon record, donc clairement, je peux que être satisfaite. Après, c'est vrai que le jour du marathon, j'aurais espéré faire un peu moins de 2h32. Mais après, c'est les aléas de la course, hein. Ça reste difficile, ça reste une distance qui est, il faut aller au bout. Et non, franchement, je suis très 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 contente, bien sûr. Franchement, là, je suis clairement sur une autre planète depuis une semaine.
Yodi, t'es bluffé par la perte d'Anaïs ?
Ouais, bah normal, hein. Bluffé pas. C'est bien parce qu'elle valide, c'est un peu la cerise sur le gâteau, entre le SMI en 1h11, les France de Cross, enfin un peu tout... Et finalement, le marathon vient, c'est un peu l'aboutissement d'une belle saison hiver. Donc vraiment, bah, bluffé oui et non, parce que quand tu fais une 11 au semi, bah, c'est potentiellement ce que tu vaux sur marathon. Donc, mais les conditions, en plus, marathon avec des conditions très moyennes, le chrono est d'autant plus beau. Hein.
Alors, particularité technique, tu n'es pas parti avec l'élite femme, hein, Anaïs.
Toi, non, je suis partie avec le SAS Pref.
Voilà, et tu as bien fait, du coup, avec des amis à toi. Vous avez couru en
mode,
quoi.
J'ai bien fait, ouais, parce que du coup, j'avais un groupe quasi du début à la fin. Pas pour me livrer, hein, chacun a fait son record. Mais vraiment, on était ensemble. On s'est dit, bon, bah voilà, on part tous ensemble et on va essayer de tenir le plus longtemps possible tous ensemble. Et franchement, je pense que ça a été vraiment bien. J'ai pas regardé ce que ça avait donné chez les femmes, chez l'élite femmes, mais je pense que ça aurait fait comme l'année dernière si j'étais partie en élite.
T'aurais été isolée, ouais.
Ah, tu l'avais fait l'an dernier, d'accord.
Seule,
ok, tu t'es retrouvée toute seule assez vite, quoi, d'ailleurs.
Ah, bah au bout d'un kilomètre.
Ah oui, ça, assez vite.
Ça fait vite,
oui, c'est rapide, hein. C'était long après. Donc là, non, franchement, je suis très contente. En plus, il y a eu une ambiance de dingue comme chaque année, et franchement. C'est le marathon de Paris, c'est fou, quoi.
Alors évidemment, on va revenir sur ta prépa et c'est tes objectifs à venir. Parlons de Mehdi désormais. Mehdi, donc toi, tu fais premier français, tu termines 10e au général, 2h11-05.
C'est ça.
On t'a vu, toi, à l'arrivée aussi, on était là avec Johan, on t'a vu un peu déçu, forcément, par le chrono, surtout, même si les conditions étaient vraiment difficiles. Nous, on avait reconnu le parcours avec Johan dès le vendredi. Souviens-toi, je t'ai croisé au salon, même là, juste ouais, après, je t'ai dit, ouais. Mehdi, le parcours, il n'est pas trop propice à un record et à des minima. Et ça s'est confirmé, quoi. Malheureusement, c'était délicat, quoi.
Non, après, être déçu, c'est un grand mot. On va dire que le bilan est mitigé d'un point de vue sportif. Forcément, je m'attendais à mieux. Après, il faut être réaliste. Je n'ai pas le niveau de courir 2h08 sur un parcours comme ça avec des conditions un peu dantesques. Donc, plutôt satisfait. Surtout qu'au final, on a bien profité. C'était une belle journée avec un public qui était fantastique tout le long du parcours.
Donc, toi, tu t'es retrouvé seul à un moment. Tu as senti l'engouement et la ferveur du public. On t'encourageait. C'était sympa. Quoi.
Quand j'ai été seulé avec mes adversaires, au final, je ne me suis jamais senti seul parce qu'il y avait le public sur le long du parcours. Franchement, on ne s'est jamais retrouvé un moment seul avec nous-mêmes. Quoi. Donc, ça, c'était vraiment un gros avantage. Et pour revenir aux féminines, moi, je ne comprends pas vraiment la logique de séparer le départ élite femme des élites hommes et des sas préférentiels. Parce qu'au final, on a rattrapé assez rapidement des coureuses isolées dans la course. Mmh. Et c'est des élites femmes étrangères qui sont venues jusqu'à Paris pour faire un marathon toute seule. Je trouve ça un petit peu dommage.
Bah, d'autant que le seul problème de ça, c'est qu'au final, Abeille Ayana est arrivée avant les féminines. Et que ça fait un peu un mélange. On le voit d'ailleurs sur le sprint femme, parce qu'elles sont à côté d'un homme qui lui, termine 3e ou 4e. Parce qu'elles partent en gros un quart d'heure avant.
Hein, ouais, c'est ça. Ouais.
Donc, c'est. Après, Paris veut mettre en valeur les coureuses féminines, mais c'est vrai que c'est pourrait peut-être faire plus d'écart entre les groupes. Quoi,
à la en fait, ils prennent, c'est calculé l'écart, et c'était 15 minutes et 45 secondes. C'était les deux chronos de référence de l'an dernier. Donc, chaque année, l'écart est différent. Ce n'est pas chaque année 15 minutes. Là, c'était 15 minutes et 42 secondes. Mmh. C'est en fonction des chronos des deux meilleures performances de l'année. Le but, c'est de valoriser un peu les femmes en ayant vraiment des caméras spécifiques sur elles et qu'elles ne soient pas regroupées au sein des pelotons masculins un peu isolés. Mais c'est vrai que pour elles, en termes de performance, c'est beaucoup plus compliqué quand, si par exemple, tu vaux 2 heures, pour le coup, une nana qui courait en 2h26-27, si elle avait couru dans le groupe des masculins, je peux vous dire qu'il y avait des gros groupes ces chronos-là, c'était monstrueux. Il y avait des vingtaines de coureurs.
C'est top d'avoir Faustin, parce que Faustin, c'est coureur de très haut niveau, mais moi, j'étais bluffé, et je te l'ai dit à l'arrivée d'ailleurs, Johan, par la densité de coureurs en moins de 2h30.
En moins de 2h30.
Je ne revenais pas du niveau vraiment de ce marathon de Paris, le nombre de mecs qui étaient quand même à ce niveau-là. Là, on est sur des allures folles, hein, donc on en parlera avec Faustin. Juste un mot avec toi. J'ai regardé sur Strava d'ailleurs, Greg est là, mais j'ai regardé sur ton compte Strava voir où est-ce que ça avait coincé. Un peu, t'es un peu coincé au 37e, c'est la fin de parcours qui a été plus délicate ou tu l'as pas ressenti comme ça toi?
Après, si je sentais que j'étais avec un adversaire où j'avais pas réussi à suivre le rythme à partir du 34 km, j'arrivais à maintenir l'allure, mais après quand j'ai commencé à faire mes calculs et que je voyais que le chrono c'était fini et qu'en plus on arrivait dans les portions encore plus compliquées, j'ai préféré finir un petit peu en roue libre, plus profiter. On m'annonçait que c'était 1 minute 30 derrière, c'était pas rattrapable devant. Bon, j'avais plus grand chose à jouer. Quoi.
Comment t'as choisi ton peloton de départ? Parce qu'on le sait, il y a les élites qui partent tout devant avec les lièvres, les coureurs éthiopiens et kényans. Et puis ensuite, il y a plusieurs allures qui se mettent en place. Hein. Johan Koval est parti un peu en retrait par rapport à toi, par exemple. Comment t'as choisi, toi? Tu t'es retrouvé dans un groupe. C'était quoi l'objectif du groupe d'allure où t'étais d'ailleurs?
J'ai essayé d'être raisonnable pour une fois. Au final, mal m'en a pris. J'ai voulu partir avec le groupe qui était annoncé en 2h07-30.
Ouais.
Et au final, c'est le groupe élite qui partait en 2h05 qui a fini dans les allures 2h07.
Ouais.
Et mon groupe était bien parti pendant les 10 premiers kilomètres. Et au final, il faut le dire, quand c'est le cas, les lièvres n'ont pas été spécialement bons. Ils ont beaucoup ralenti. Ça s'est endormi entre le 10e et le 20e kilomètre. Et on avait plus d'une minute de retard, à peu près une minute de retard sur les allures annoncées au semi-marathon. Quoi. Donc il n'y avait plus grand chose à faire. Là.
Ça, c'est frustrant, hein, Johan. Hein, pour des mecs de votre niveau.
Le problème du marathon, c'est que quelque part, tu mets ta performance et tes 6 mois d'entraînement et tout ça dans les mains d'athlètes de lièvre qui sont censés t'amener jusqu'au 30-35 de façon régulière, métronome et sur les bonnes allures. Et ça, il faut vraiment avoir confiance en ces gars-là. Et c'est des paramètres ça que tu maîtrises pas, comme la météo. La météo, c'est pareil. Sur le marathon, là il y a eu du vent, tu maîtrises pas les conditions climatiques, mais ce que tu pourrais maîtriser, c'est les lièvres. Et pour ça, faut avoir une grande confiance. Et Kipchoge, il se trompe pas, hein. Pourquoi? Il prend les lièvres qu'il connaît, parce qu'il sait les mecs qui sont en forme ou pas, il les teste. Et ceux qui seront pas capables de l'amener sur les bonnes allures ou de se dire le mec il met des à-coups, il est pas régulier, il saute et il le prend pas, hein. Le rôle du lièvre, franchement, dans la performance, c'est le plus important presque.
Bah oui, parce que toi, tu visais une allure qui n'a pas été tenue du tout. Enfin,
sur partie du parcours. Après, comme il le dit, après, tu t'accroches à quoi Tu finis pour finir, quoi.
Anaïs, toi, tu as couru avec un groupe de coureurs. Vous étiez combien autour de toi?
Oh là là, on était vraiment nombreux. J'étais super étonnée.
Ouais.
On était, non, je sais pas, je pense une bonne vingtaine.
Tu t'es mis à l'abri quand même, parce que c'est vrai que sur les quais de Seine, je crois que vous avez eu le vent de face d'ailleurs, donc c'est une partie déjà délicate du marathon. Toi, t'étais abritée quand même à ce moment-là?
Non, j'étais pas du tout abritée. En fait, toute la course, au début, j'ai voulu suivre un groupe, mais je me suis rendu compte assez rapidement que c'était pas mes allures. Ça partait plutôt sur 2,27, 2,28.
Ah oui, d'accord.
Donc déjà, quand j'ai vu mon passage au 10, je me suis dit, bon, bah là, va falloir se calmer un peu. et du coup, après, j'ai continué à mon allure. En fait, j'ai essayé de ralentir un petit peu, mais bon, c'est compliqué. Surtout qu'en général, jusqu'au semi, jusqu'au 20, 25, on est plutôt à l'aise sur les allures. Et c'est après qu'on le paye. Mais non, du coup, j'étais assez... j'étais pas du tout abritée du vent, en fait. J'ai plutôt emmené le groupe.
Alors, l'ironie du sort, c'est que le mieux lièvré de cette équipe, c'était Faustin, finalement. Faustin qui est avec nous, qui fait 24e, 8e français, 2h18 et 18 secondes. Là aussi, un peu de souffrance sur la fin, mais un lièvre de luxe qui vous a vachement aidé, c'est Duncan Perilla, qui était avec vous, qui a fait un travail monstrueux en tête de peloton.
Pour le coup, lui, il a été ultra régulier.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et en fait, on s'était bien organisé avant la course. On avait pris contact entre Français. On est un groupe de potes. Et du coup, Duncan, malgré son marathon, parce que là, il court semaine prochaine, dans week-end prochain. Du coup,
t'es
il prudent, court le marathon
ça, du coup,
de Rotterdam.
Tu faire ça, Yodu en prépa de Rotterdam, non. Comme
mais
ça.
Mais Duncan...
Il peut tout faire, Duncan.
Ouais, Duncan, c'est pire faire, que Mehdi, voilà, c'est vous dire.
Ouais, c'est
ça. Il est pire.
Lui, son record, il l'a fait sur une semaine de 260 km, donc voilà, il peut tout faire.
Voilà.
Et du coup, ouais, il nous a tiré, il devait tirer au moins jusqu'au 30e, et il a même tenu jusqu'au 35e kilomètre.
Parce que 35e, t'arrives au bois de Boulogne, quoi. T'as plus de soucis de vent et tout ça. Bon, après, t'as le souci du dénivelé, etc. Mais
bon. Ouais, c'est sûr que c'est moins prise de vent, mais par contre, le dénivelé était compliqué, les pavés, c'était un peu plus dur. Et nous, on avait un bon groupe, on était organisés, on était 4 autres Français ensemble, à peu près au même niveau, on avait tous le même objectif.
Ouais.
Donc c'était génial, en fait. C'est des potes avec qui on est même en stage, pas au quotidien, mais plusieurs fois dans l'année, on s'est retrouvés sur la même course, le même jour. Donc c'était génial.
Et parce que toi, c'est comme Mehdi, finalement. Mehdi, il a un briefing d'avant-course où lui, il choisit son peloton. Toi, en arrivant, tu savais que tu courais avec ces mecs-là. Donc ça enlève une certaine pression aussi, j'imagine. Parce que tu sais que tu seras lièvré et que tu seras bien
entouré. C'est la première fois que je fais vraiment une course sans regarder ma montre. J'ai vraiment
carrément
fait confiance. Je sais que la plupart des gens qui sont au niveau, ils ne regardent pas leur montre pendant la course. Ils font entièrement confiance au lièvre.
Tu regardes pas ton temps.
J'ai regardé que tous les 10 km. Ouais, j'ai regardé au 10 et au semi, mais sinon, moi, je suis omnibulé par la montre tout le temps. Même des fois,
Je pourrais pas,
entre les kilos, je regarde les allures, tout ça, et là, non.
Ah, c'est marrant. Mehdi, tu regardes pas la montre sur la course?
Non, pas pareil. Ça a été mon problème. C'est que j'ai regardé au 10e kilomètre et je me suis dit, super, on est bien lancé. Et ensuite, j'ai arrêté de regarder la montre et je me suis rendu compte qu'au 20e kilomètre, qu'on avait perdu une minute.
Ah ouais?
Ouais, donc si j'avais vu avant, peut-être que j'aurais mis un petit coup avant.
Je suis surpris que vous soyez pas obsédé. Anaïs, t'es comme ça aussi? Toi, tu surveilles la montre ou pas, Anaïs?
Non, moi non plus. Moi, j'ai regardé au 10e.
Ok.
Et puis après, j'ai regardé au 15, mais dans ma tête, c'était déjà n'importe quoi. Et puis après, j'ai regardé au semi.
Et oui, est-ce que tu passes en 1,14 combien au semi?
1,14,30.
1,14,30.
C'est beau.
Donc sur les bases de
2,29. C'est magnifique. C'est magnifique.
Mais la première partie est plus favorable à Paris, il faut le rappeler. On peut prendre de l'avance.
Ouais, on avait un petit vent de dos au départ.
Alors, en plus, avant d'aborder les tendances avec Greg Vermersch qui nous attend et qui va en parler avec nous par rapport à tous les coureurs qui sont sur ce travail et qui ont publié leurs courses. Parlons de cette fin de parcours, parce que c'est vrai, elle a été modifiée. On vous l'a dit, nous, on l'avait repéré vendredi matin avec Johan. On avait repéré cette allée de la Reine Marguerite, sympa, dans le Boulogne, pam, petit coup de fesse comme ça, hop, ensuite le faux plat. Et surtout, la surprise, c'est l'entrée à la porte de Passy et cette fameuse côte juste avant le Trocadéro qui est vraiment casse-pas. Ah bah tu vois, Faustin, tu me confirmes, c'était très dur, quoi.
Infâme.
C'est là où vous avez souffert. D'ailleurs, Anaïs, je crois qu'il y a un peu de dégradation au niveau du chrono à ce moment-là aussi, hein, toi.
Ouais, mais complètement, je suis à 3,50. Je suis à 3,54 dans mes 4 derniers kilos, quoi.
Donc tu perds 20 secondes, 20 grosses secondes au kilomètre.
Ah
quoi.
Oui. Ouais. Ah oui. Ouais.
Toi, ça se voit pas trop, Mehdi, c'est pour ça que t'as bien géré ta fin de course. Tu dégrades un peu, je le disais, à partir du 37e. Mais après, tu arrives à gérer quand même ton effort malgré le dénivelé, quoi.
Oui, après, j'étais moins en souffrance parce que j'avais un peu levé le pied. Mais au final, je finis à 16 et quelques le dernier 5 km, donc c'est pas non plus aberrant avec le parcours qui s'élève un peu. Mais effectivement, c'était très casse-pâte. Je pense qu'il n'y avait aucune chance de relancer dans cette partie-là, quoi. S'il y avait du temps de retard, c'était fini. On savait, c'est Paris.
Il y avait la consolation de se dire ça redescend un peu après, mais en fait, c'est trop court.
C'était en pavé, en fait. C'était même pas agréable.
C'est ça. avec le virage ensuite vers l'avenue Foch. Greg, tu es donc avec nous. Et d'ailleurs, on va faire un petit quiz à ceux qui ont participé donc, à ce marathon de Paris. Donc, Mehdi, Faustin et Anaïs. Greg, tu as sous les yeux justement le kilomètre le plus rapide et le kilomètre le plus lent sur ce marathon de Paris pour l'ensemble des coureurs.
Anaïs, alors, kilomètre Mehdi, le kilomètre le plus rapide.
Ouais, le plus rapide.
Moi, je sais que j'ai dû en faire en 2,57, je pense.
C'est lequel ?
Dans les premiers, hein, je pense que c'était dans le premier 5
km. Oui, c'est le départ, hein, généralement.
Okay. Ouais, moi aussi, j'ai dû faire 3,8, 3,7, je pense, le plus rapide. Mais on était régulier, donc du coup, il n'y a pas eu d'à-coup.
C'est la moyenne la plus rapide. Hein.
Ouais. Et toi, Anaïs, tu dirais quoi ? Plus rapide.
Moi, je dirais vers le départ aussi, parce qu'en plus, ça descend un petit peu, on est tous un peu dans l'euphorie. Je dirais que c'est dans les 5 premiers kilos.
Alors, la réponse, Jean-Pierre ?
Moi, je dirais 2,53 le chrono.
2,53 ? Quoi, 2,53 ?
Qu'est-ce qu'il raconte ?
La moyenne, l'allure.
L'allure de qui ?
Et du plus rapide ?
Non, moi je te demande le kilomètre le plus rapide pour l'ensemble des gens, tu vois, là mais où les gens...
Combien de kilos fait en 2,53 du 0 au 1 ?
Oui, non, mais c'est pas celui qui a fait le kilo le plus rapide, il a rien compris. Le
quel kilomètre ?
Voilà,
quel
on a kilomètre. Dit, quel kilomètre pour l'ensemble des coureurs a été le plus rapide ?
On connaît pas cette personne.
Quelle portion ?
Non, mais du 0 au 1. C'est ça,
là. Ouais, le premier, peut-être.
Tu entends moins que Charlie Bancarel, tu m'inquiètes.
Du 0 au 1.
Oui, j'ai compris.
Kilo, c'est le kilo le plus rapide du compris. Marathon.
Eh bien non, tu te trompes. La réponse avec Jean-Pierre Foucault. Vas-y, Greg.
C'est le sixième kilomètre. Alors, effectivement, c'est la moyenne la plus rapide. Ça englobe l'ensemble des participants. Et c'est donc le rythme est à 5,07 du kilomètre.
Voilà, c'est le rythme moyen
de l'ensemble des coureurs. C'est le sixième kilomètre le plus rapide.
Voilà. Et je me demande si c'est pas vers Bastille. Parce qu'il y avait une foule incroyable et du coup, il y avait...
C'est galvanisant.
C'était le Tour de France, quoi.
Ah ouais,
du coup, ouais, ça motive.
Bon, c'est peut-être un peu plus simple.
Après le ravito, ils avaient bien bu.
Ouais, c'est ça. C'est peut-être un peu plus simple, Greg, de faire deviner le kilomètre le plus difficile, à votre avis.
Trocadéro.
Oh, et donc, c'est lequel ?
38 à peu près.
38
ouais, 37, 38.
Anaïs ?
Ouais, je dirais pareil.
Yodu ?
Ouais, bah, je vais pas me lancer. Vu ce que j'ai dit tout à l'heure.
2,53.
Ouais. Et Greg, du coup, alors ?
C'est le 39e kilomètre. Ouais. Alors, c'est pas étonnant, c'est vraiment sur la fin de parcours. Mais ça corrobore un peu les prédictions. Mais donc, le kilomètre moyen, enfin, la vitesse moyenne, le rythme moyen pour ce kilomètre-là, le 39e kilomètre, c'est 5,55. Voilà. Et sur le plus rapide, donc, la zone, c'est autour de l'hôtel de ville. Vous voyez, c'est la longue ligne droite.
Eh oui, d'accord.
Pour l'hôtel de ville.
Ok, donc t'es rue de Rivoli, là, encore ?
Vendôme, là, en plus. Donc, ouais.
Parce qu'avant, le départ du marathon était très rapide, mais on filait tout de suite rue de Rivoli. On n'avait pas ce petit détour comme ça qui est un peu...
Là, ils veulent passer vers l'Opéra Garnier.
Ouais, voilà, exactement. Avant, c'était beaucoup plus une autoroute.
Le long du Louvre aussi, c'est ça le galvanise, peut-être.
Ouais, puis vous aviez vent dans le dos, d'ailleurs.
Vent dans le dos, c'est porté par l'histoire.
C'est ça, exactement. Mais Anaïs, parce que Faustin, tu l'avais déjà fait, toi, le marathon de Paris ?
Non, c'est mon deuxième marathon et premier à Paris.
Ok. Et toi non plus, tu ne l'avais pas fait, on en avait parlé. Mais...
Je l'avais fait en Lièvre et j'avais fini en 3h01. Donc j'avais vu le parcours, mais j'avais profité. Quoi.
Alors que toi, Anaïs, tu as senti un vrai changement dans le parcours et un vrai impact sur, musculairement, j'imagine, sur cette fin de marathon.
Ah oui, carrément. J'ai vraiment vu la différence à la fin. Alors tout le monde m'en avait parlé. Moi, je ne suis pas du genre à regarder trop les parcours avant. Mais j'en ai beaucoup entendu parler et c'est vrai que j'appréhendais un peu. Et effectivement, arriver entre kilomètres 36, 37, 38, c'est vraiment compliqué quoi, par rapport à avant. Et puis je trouve que ça finit pas ouf parce que finalement, avec les deux derniers kilomètres en pavé, avec la petite pluie fine, ça glissait beaucoup et c'était vraiment difficile.
Ouais, une fin de parcours délicate, mais en tout cas beaucoup de finishers. Pour mettre un peu de perspective dans tout ça, parce que c'est vrai que là, Greg, on est entouré de champions, donc de personnes qui courent extrêmement vite. Quels sont les chiffres principaux que tu peux nous donner alors sur cette édition 2023 ? Je crois que le temps moyen, c'est un peu dégradé, hein, c'est ça ce que tu me disais ? Légèrement, quoi.
Effectivement, oui. Si on regarde le temps moyen par rapport à l'année dernière, bon, c'est pas un écroulement non plus. Hein. Les gens ne sont pas écroulés. L'année dernière, on était, donc, si vous vous souvenez bien, à 3h51, 21 secondes.
Chez les hommes ?
Et donc, sur l'ensemble des coureurs.
Ok.
Ouais. Et cette année, bon, on prend 2 minutes de plus. Voilà, on est à 3h53.
C'est ce qu'on se disait de nous. Je pense que même dans les meilleurs, il y a à peu près 2 minutes d'écart, je pense.
C'est très cohérent. Hein.
Ouais, voilà, tout le monde est très cohérent. Donc voilà, ça c'est sur la moyenne.
Ça peut s'expliquer aussi par le fait qu'il y ait de plus en plus de néo-marathoniens. Donc le chrono, je pense, moyen sera peut-être amené à être
un peu plus haut, quoi.
Ah, mais pour un premier marathon,
oui,
avoir un temps moyen comme
ça.
Plus,
il y a eu beaucoup plus de finishers cette année.
Ouais, ouais.
Alors justement, en parlant des finishers, l'année dernière, on était pareil, autour de 51% de finishers, enfin de participants du marathon qui ont partagé leur marathon sur Strava.
Voilà. Donc ça veut dire un coureur sur deux qui était sur Strava, voilà. Ouais, c'est ça. Qui a fini le marathon.
Voilà. Et c'est le cas aussi cette année, mais ça représentait en volume 18 000 personnes. Cette année, ouais. Un marathonien sur deux sur le marathon de Paris, c'est 26 000 personnes.
Ouais.
Donc il y a une augmentation en volume. En proportion, c'est à peu près la même chose. Mais du coup, forcément, il y a plus de gens. Et comme on le disait tout à l'heure, à très juste titre, hein, beaucoup de gens se lancent sur le marathon de Paris comme un premier marathon.
Ouais.
Et donc, voilà, c'est bon, forcément, la moyenne augmente un petit peu, mais c'est pas non plus. Ça s'écroule pas non plus, quoi.
Parlez-moi de l'ambiance, vous en avez parlé un petit peu, Mehdi, tu t'es jamais senti seul, tu me le disais. Tu avais couru Valence, notamment, c'est incomparable, par exemple ?
Alors, je ne sais pas si c'est le fait que là, j'étais français et que j'étais un petit peu reconnu par le public.
Ouais. Donc,
j'ai senti beaucoup plus d'encouragement qu'à Valence. Après, Valence, c'est aussi la ville du running, par excellence. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même un public de qualité là-bas, de connaisseurs, et qui est assez massé le long du parcours. Mais là, c'est la première fois que j'ai senti une atmosphère aussi importante sur une course. Donc, est-ce que c'est parce que les publics français qui connaissaient un petit peu les athlètes ou la foule qui était venue en nombre malgré la météo, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, c'est vrai que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à courir, à profiter de cette atmosphère comparé à d'autres courses où on avait peut-être un peu moins de monde, quoi.
Faustin, tu nous disais, c'est limite ambiance de stade de foot sur certains points.
À certains points clés, oui. Ouais. Moi, on m'avait toujours dit Paris, bah, c'est pas comme Valence, c'est pas comme Berlin. Et au final, bah, j'ai été ultra surpris aussi, quoi. C'était super ambiance. Et on était 5 Français, donc il y avait toujours des amis de l'un ou de l'autre qui étaient sur le bord de la route, donc on était tout le temps encouragés, pareil, quoi, donc ça aide.
Et Anaïs, toi qui as connu les anciens parcours, c'était beaucoup mieux au niveau de l'ambiance et de la ferveur, justement, d'éviter tout ce passage dans le bois de Boulogne, où là, il n'y avait plus vraiment grand monde autour de la Fondation Vuitton, etc.
Oui, c'est vrai que là, il y avait du monde vraiment partout. On ne se sent pas du tout esselé, et franchement, moi, c'est aussi pour ça que je fais quasiment Paris tous les ans, hein, c'est parce que l'ambiance, elle est au-dessus de tout, quoi. Puis, pour moi, en tout cas, c'est un marathon qui est quasiment à domicile, parce que j'habite en région parisienne.
Ouais.
Et c'est fou, quoi. Je pouvais voir des gens de ma famille, j'ai vu ma mamie, il y avait mon père un peu partout. Enfin, c'est incroyable. Vraiment, l'ambiance, elle est dingue.
T'as un beau cadeau d'anniversaire, quoi.
Ouais, c'est clair.
Voilà. J'étais surpris aussi, Greg, de voir la moyenne d'âge aussi, parce que la moyenne d'âge a baissé sur marathon. On y va de plus en plus jeune. C'est 39 ans. Bon, il y a Charlie qui fait exploser tout ça.
Ouais. Merci Charlie. Ouais,
voilà, où est Charlie, du coup? Bah, voilà, il était là. 39 ans, l'âge moyen. Moi, je trouve ça jeune quand même, hein.
Bah, ça montre aussi l'engouement qu'il y a autour du marathon. Donc, les gens s'y mettent de plus en plus tôt, de plus en plus jeunes.
C'est vrai.
Il y a de plus en plus de participants. C'est plutôt bon signe, quoi. C'est encourageant à l'approche de Paris 2024 aussi.
Peut-être que le marathon fait moins peur aussi.
Ouais.
Ouais, pour se lancer.
Oui, il faut noter la progression des femmes aussi.
Oui, t'as raison.
Donc, nous, on a observé une augmentation de 6% par rapport à l'année dernière. Donc, On aimerait voir des chiffres, enfin des proportions, enfin des augmentations en deux chiffres chaque année, mais c'est bon, 6% on prend, clairement. Donc c'est bien
de voir 6%
de femmes en plus sur le marathon.
Ouais.
Donc ouais, c'est 23% en fait des participants, en tout cas sur Strava, sont des participants, 23%. Donc voilà, on a une responsabilité, donc franchement nous aussi on se dit qu'on a cette capacité en tant que média de promouvoir la discipline. Et donc voilà, remercier des personnes comme Anaïs, hein, de partager leur marathon, leur expérience sur Strava, parce qu'en plus du parcours, des performances, il y a toute la dimension photo. Là, il y a des milliers de photos, des milliers de vidéos partagées autour du marathon, et ça donne vraiment envie à beaucoup de gens de s'y mettre.
Ah,
donc,
ouais.
Et à beaucoup de futures participantes, on espère. À suivre.
Anaïs, c'est beau, hein. 6%, c'est beau quand même d'augmentation.
Ouais, c'est super beau. Ouais. Moi, je trouve ça génial. Et puis, il y a plein de gens pareils qui peut-être n'osent pas se mettre au marathon. Et quand ils viennent sur le marathon de Paris, qui viennent encourager ou voir du monde, tous les retours que j'ai eus, c'est même pour ceux qui ne courent pas forcément, hein, tout le monde me dit ah, c'est vrai que ça donne envie.
Ah oui. Bah
donc, c'est chouette. Sûr. J'espère que tous ces gens-là qui ont envie sauteront le pas un jour et feront un marathon. Et franchement, c'est trop bien.
Exactement. Est-ce que vous êtes passé? Alors vous n'avez pas eu le temps, les gars, parce qu'on l'a dit, vous êtes partis sur le cross championnat de France de gendarmerie, tous les deux, dès mercredi. Ouais. Voilà, le marathon, c'était dimanche, dès mercredi. Bravo Mehdi, t'es devenu champion de France. Bravo.
Merci.
Cocorico.
J'ai pas eu de pitié pour mon ami.
Voilà. Voilà, ça s'est joué au sprint entre vous deux, c'est ça?
Ça s'est joué dans le dernier tour.
Ouais. Ah ouais, bravo. Ah ouais, t'as cédé, du coup. C'est pour ça que tu l'as appelé le
non, trait. Non, mais exactement. Mais après, en fait, il a fait
ça
son
équipe. Fait rire, en plus, Mehdi.
Il a fait son école, on était dans l'école de gendarmerie de Dijon, donc du coup...
Ah oui, d'accord, il connaissait le
connaissait
parcours.
Le parcours.
Ouais, il avait repéré, et puis surtout, il y avait ses gradés qui étaient là, donc je voulais
pas j'avais pas le droit de faire deuxième,
ok. Non, la question que je voulais vous poser à tous les trois, est-ce que vous êtes touchés par le syndrome du marathon blues, ou pas vraiment?
C'est le syndrome de...
C'est
de donner un sens à sa vie après le marathon.
Non, c'est pas ça, c'est une fois que le grand objectif est passé, est-ce qu'on n'a pas un peu le soufflet qui retombe et de se dire, bah là, il va falloir repartir au charbon. Vous courez beaucoup tout au long de l'année, donc c'est peut-être différent.
Ah, pas du tout.
Alors là, non, c'est nous, c'est vraiment le plaisir de pouvoir profiter un peu, le repos, les restos.
Et puis de passer à autre chose, d'avoir une autre prépa, quoi.
Partir sur autre chose, tout de suite. Ouais, la projection immédiate. T'es d'accord, Anaïs, c'est ça aussi pour
toi? Ouais, je suis d'accord. C'est pareil, à peine arrivé, on est déjà dans l'après, en fait. Moi, j'ai pas trop de blues, entre guillemets, peut-être sur mes premiers marathons, mais aujourd'hui, je me dis plutôt, bon, bah voilà, aujourd'hui, il y a ça à perfectionner, bah, on va continuer l'entraînement pour repartir sur d'autres objectifs.
Après, oui, c'est vrai que vous êtes de gros coureurs, vous bornez pas mal tout au long de l'année. On en avait parlé l'an dernier, on avait encadré des préparations, souviens-toi, Johan, avec les personnes de Niskan, voilà, donc il y avait des primo marathoniens, etc. Là, c'est un peu plus dur. Quand tu t'es entraîné 3 mois, que c'est pas forcément ton sport de prédilection, que t'es pas un coureur assidu, une fois que l'objectif est passé de repartir sur quelque chose d'autre, ça peut être plus délicat. Et puis, vous avez atteint vos objectifs, mine de rien. Enfin, toi, tu l'as un peu dépassé, Faustin, mais vu les conditions, c'était pas grave. Toi, c'est pareil, t'es plutôt satisfait de ta course Mehdi. Anaïs, c'est RP, donc on n'en parle pas.
Mais ouais, voilà.
C'est sûr que quand ça se passe bien, c'est plus motivant pour y retourner. La question que je me pose avant d'accueillir Thomas, Greg, c'est qu'a fait Michael Horvat, le fondateur de Strava, qu'est-ce qu'il a donné sur ce marathon de Paris alors?
On avait dit qu'on parlait pas du patron de Strava, donc je suis obligé de...
On veut savoir. Ouais.
Tu me mets dans une position très délicate. Donc oui, donc
le patron de Strava, je l'ai retrouvé,
qui a fait le marathon de Paris.
Après j'ai l'application, je peux regarder.
Voilà, c'est ça, tu peux regarder.
Oui, faut avoir le nom et le prénom. Mais oui, donc il finit en 4h21. C'était son 11e, 13e marathon. Ça faisait 13 ans qu'il n'avait pas fait de marathon. Mais voilà, il a souffert, mais il a adoré l'ambiance. Et il craque sur la fin totalement, mais au niveau du 35e. Mais ce que je retiens par rapport à son expérience, c'est on parlait d'un peu de l'engouement autour du marathon de Paris, et c'est là où ASO, je pense, fait un super travail depuis des années.
Ouais.
J'étais pas là en 76 quand ça s'est créé le marathon, mais il y a plein de collègues qui sont venus faire le marathon de Paris. Ils ont halluciné sur l'ambiance. Ils ont fait Boston, ils ont fait New York, ils ont fait les 5 majeurs. Ils ont halluciné sur l'ambiance à Paris, vraiment.
Alors donc, ça, c'est bien de le dire, Greg, tous, là. Parce que c'est une idée reçue, comme quoi Paris est très beau, mais il n'y a pas beaucoup d'engouement, mais c'est bien de le signaler.
Il n'y a pas d'ambiance, non, mais c'est complètement le contraire.
Je ne veux pas citer mes partenaires, mais il y a des fan zones qui sont créées par les partenaires du marathon, du Schneider Electric Marathon de Paris.
Mais cite-les, pourquoi tu ne veux pas les citer?
Que ce soit ASICS ou Orange, il y avait des fan zones avec des fanfares et toute la famille des coureurs qui sont placés à des endroits stratégiques, voilà, les partenaires, que ce soit Brandt, ASICS, Orange ou n'importe qui, mettent des fan zones tout au long du parcours pour encourager les athlètes.
Donc
avec
un travail
fanfare
dessus.
Ouais. Il y a même de quoi manger, tu as des food trucks et tout toute l'après-midi, toute la journée. Donc du coup, ouais, c'est ça pour les ASO, à réussir à mobiliser les partenaires pour créer justement cette ambiance, et c'est très bien.
Mais oui, c'était l'enjeu, effectivement. Et il y a eu beaucoup d'ambiance, malgré les conditions météo, encore une fois, la pluie,
et
le vent.
Et malgré le froid, ouais.
Exactement. Accueillons Thomas, tiens, fidèle auditeur d'RMC Running, qui était avec nous au Salon du Run Experience. Salut Thomas.
Salut tout le monde.
Comment ça va Thomas?
Bah, ça va super bien.
Bon, Thomas...
Très heureux, très fier.
Écoute, on te félicite. Objectif atteint, toi aussi, tu visais le sub 3 et tu y es parvenu, hein.
Yes, 2h56 et 53 secondes.
Ouais, c'est pas beau ça, Yodu?
Bravo.
Chronome.
T'es félicité par le meilleur français, la meilleure française, c'est bon ça?
Non mais je sais, j'ai échangé un petit peu avec eux, avec Mehdi rapidement sur les réseaux et puis Anaïs aussi, parce qu'il y a beaucoup de contenus qui sont sortis sur Anaïs là dernièrement et tout ce qu'elle a vécu, son parcours.
Mm-hmm.
Et voilà, moi je suis hyper admiratif des gens que vous avez avec vous, parce que déjà, ce sont des gens qui sont extrêmement inspirants et qui me donnent envie, en fait, de faire ce type de sport et de faire ce type d'effort, de marathon, Johan bien sûr inclus. Et voilà, donc, moi, ce sont des gens que j'admire énormément et qui inspirent beaucoup.
Bon, c'est un beau week-end pour toi. Tu as gagné la Nimbus jeudi, tu es venu faire ton RP, là, tu reviens dans RMC Running, tu es au top, là, Thomas, tout se passe bien.
Et je me suis inscrit ce matin pour aller faire le marathon de Berlin 2023.
Ah, bah, y aura Anaïs, on en parlera avec Anaïs, mais Anaïs y sera, du coup. Bon, je ne sais pas si vous pouvez partager le même sas d'allure, mais bon, pour l'instant, c'est pas sûr. Pour l'instant, c'est pas sûr. Je vois Mehdi qui secoue la main. Je me demande s'il y sera. Je ne sais pas s'il y sera. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Ça ne dépend pas que de moi.
Ah, c'est l'histoire de Budapest, des championnats
ouais,
du monde.
Ouais, on verra. Ouais. Okay. Soit Budapest, soit Berlin, peut-être. Ouais.
Tu m'as levé le doigt quand je t'en ai parlé sur la ligne d'arrivée. Tu m'as dit je suis qualifiable. Je ne suis pas qualifié, je suis qualifié.
Bien sûr, ça dépend des camarades marathoniens aussi, selon leur. Leur prévision, s'ils participent ou pas, vu que je suis quatrième sur la liste, donc on attend de voir.
Ok. Thomas, est-ce que tu te reconnais dans tout ce qu'on a dit par rapport à ce marathon de Paris 2023? Est-ce que toi aussi t'as souffert sur la fin de parcours? Est-ce que les conditions météo étaient particulières? Et est-ce que l'ambiance, tu l'as ressenti toi aussi alors?
Alors, sur l'ambiance déjà, oui, je trouve qu'il y a un énorme changement par rapport au parcours. En fait, le fait de re-rentrer juste après le Bois de Boulogne, quand on est revenu, honnêtement, c'était l'Alpe d'Huez pendant le Tour de France. c'était fou. Ce que Johan a dit sur notamment ce qu'avait mis Orange en place, il y avait une fan zone au 40e qui était dingo. Et oui, il y a eu énormément d'ambiance. Moi, c'est vraiment, là, c'était ma troisième fois à Paris et je trouve qu'il y a une énorme montée en gamme au niveau de l'ambiance. J'ai trouvé ça canon. Et effectivement, le fait que il y avait la RATP aussi qui avait fait une ligne 42 km, les gens pouvaient aller assez rapidement d'un point à un autre. Donc, moi, j'ai vu plein de gens plusieurs fois sur le parcours et c'était vraiment très agréable. Le parcours, je l'ai trouvé aussi plus dur, clairement. Je trouve que la fin, elle est hard, hein. Quand on est juste après Roland Garros, quand on remonte dans le Bois de Boulogne, oui, j'ai trouvé ça vraiment plus dur. Après, je sais pas, au niveau de la météo, je me rends pas trop compte parce que j'ai trouvé que, il faisait froid, mais c'est peut-être plus l'humidité et un peu le vent. Mais je pense qu'on a été moins gênés que les élites parce que déjà on était plus empaqués. Donc je pense que Mehdi et Anaïs en ont sûrement plus bavé au niveau du vent que nous, même si on a eu des grosses rafales et que c'était pas simple. Les conditions, elles étaient pas simples, mais moi j'ai pas souffert tant que ça des conditions. Après, c'est sûr que ce que dit Anaïs est vrai quand on court à domicile, c'est courir à domicile, courir à Paris. Donc c'est génial. Et quand. Et la fin était très cool quand même. Toute la remontée sur Trocadéro, même si c'est dur, la remontée sur Troca, la descente sur l'avenue Foch, etc., ça a remis un énorme coup de boost. Moi, je sais que j'ai retrouvé des allures qui étaient proches de celles du 30e sur les deux derniers kilomètres, alors que j'avais eu un coup de mou où j'ai dû vraiment baisser le pied entre le, grosso modo, 36 et, entre 36 et 40, j'ai dû vraiment baisser le pied pour éviter de
ça t'a boosté quoi, la ferveur populaire, ça t'a boosté. Ouais.
Bah ça fait du bien quand on entend son prénom. Ce que dit Mehdi est juste, moi j'ai fait Valence c'est génial, mais Valence, les gens ils ne connaissent pas, le prénom ils ne le disent pas forcément. Là, même les gens qui ne connaissent pas, ils disent « Allez Thomas ». Voilà, il y a quelque chose de super agréable. Et puis l'arrivée à Avenue Foch, quand même, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est quand même. C'est la plus belle ville. Enfin, honnêtement, c'est trop beau comme marathon.
C'est sûr. Mais Mehdi, nous, on avait les images avec Johan, parce qu'on suivait la course pour RMC notamment. Et j'ai un souvenir de toi. Ouais, vous êtes plus que deux athlètes d'ailleurs. On le voit en souffrance, le gars qui est avec toi. Après, il a décroché d'ailleurs. C'est au niveau de la maison de la radio, je crois, à peu près là. Donc on est un peu avant le 30e kilomètre. Et on voyait le vent sur ton t-shirt. Donc on se disait, ouais, là, ça souffle vraiment. Et on avait les indications radio aussi qui nous disaient, ouais, là, ça souffle. Il y a un vrai vent de face. C'était quand même la partie peut-être la plus difficile à gérer. Hein.
Ah bah j'étais penché en avant, j'essayais de pas prendre de relais même si ça se fait pas trop.
C'est ça, t'étais planqué.
Non, franchement, on a connu mieux niveau conditions météo. Ouais. Après j'essayais de pas y penser pendant la course, mais bon.
J'ai une petite anecdote avec le vent parce qu'on avait d'un camp du coup qui nous tirait et j'ai jamais vu ça. Ça a peut-être intéressé Kipchoge. En fait il courait les bras à moitié en l'air.
Et pour vous, pour arrêter le vent,
en déployant ses mains aussi, et il nous faisait des gestes qu'on se mette derrière lui, et voilà, il essayait de nous protéger.
Non, il est incroyable.
À 19 km/h, les bras à moitié en l'air pour nous protéger. J'ai l'image incroyable.
Non mais Yodu, il est incroyable ce mec.
C'est plus qu'un lièvre de luxe.
C'est fou, quel bonheur. Mais d'ailleurs, j'ai vu sur vos comptes Strava, on pense à Maël Sico également qu'on salue. Vous avez tous dit merci d'un camp. Bah oui, s'il a fait le parapluie, tu m'étonnes.
Il avait mis un parachute.
Ouais, c'est ça, t'imagines ? Non, mais c'est fou. Bon, bah Thomas, merci beaucoup. Donc prochain objectif Berlin, alors Berlin 2023, quoi.
Bah oui, parce que maintenant que j'ai fait sub 3, bah en fait ça donne de l'appétit. C'est ça qui est grisant avec le marathon aussi, que en fait on sort du marathon, j'ai vu mon chrono et en plus, j'ai objectivement plutôt pas mal récupéré. J'ai recouru un tout petit peu déjà là, cette semaine et ça va bien. Et en fait, bah oui, j'ai envie d'y aller. Je trouve que c'est une période que j'ai jamais faite en termes de préparation d'une course l'été, mais avec les jours qui sont très longs, alors même s'il va peut-être faire chaud, mais les jours qui sont très longs, bah, ça permet peut-être de mieux gérer les moments pour sortir, etc., que la période hivernale. Et donc j'ai hâte, quoi.
Eh ben ouais, écoute, on te souhaite bon courage et on suivra ça à Berlin. Merci beaucoup, Thomas, d'être venu avec nous. Continue d'écouter RMC Running. Il y aura toujours des conseils pour t'aider dans ta préparation. Ok, Thomas ?
C'est prévu. Merci beaucoup.
Salut,
merci
Thomas. À bientôt. Salut, ciao. Salut. Et puis, on avait un autre auditeur qui était avec nous au Run Experience pour qui ça s'est moins bien passé. C'est Yann. Souviens-toi, Yodu. Yann qui était avec nous, qui préparait son marathon. Il a gagné son dossard grâce à RMC Running. Il s'est préparé en cette semaine. Et lui, c'est peut-être la stratégie de nutrition qui lui a fait défaut sur ce marathon de Paris. Écoutez.
Salut la team RMC Running. J'espère que vous allez bien. Pour mettre Yodu, je ne m'en fais pas trop. Entre Font-Romeu et le Camp Nou pour voir Barça-Real, il a l'air plutôt bien occupé. Je voulais vous remercier pour le dossard, pour le marathon de Paris. Bon, il faudra que je suive mieux vos conseils, notamment sur la diététique et la PPG, car ça m'a joué pas mal de tours dimanche dernier pendant le marathon. Donc mon marathon, après un départ dans le bon tempo, entre 4,50 et 5 au kilomètre, j'étais en avance aux 10 km, donc tout allait plutôt bien. Je vous rappelle que mon objectif, c'était 3h30. Au 14e, je prends un gel qui m'est resté un peu sur l'estomac. Et ouais, j'ai réussi à tenir le rythme malgré tout jusqu'au semi, où j'y passe pile en 1h45. Mais voilà, en plus de l'estomac, j'ai le quadri gauche qui a commencé à me chatouiller un peu, donc bah, j'ai ralenti. Un peu avant le 25e, je dis à mon pote de continuer, car j'allais prendre mon temps au ravito et j'allais lui faire perdre du temps. Ensuite, là, la galère a commencé, rythme autour de 5h45, les cuisses en feu. Heureusement, un autre pote, Arnaud, que je remercie également, m'a accompagné jusqu'au 35e, du 29 au 35. Ça m'a bien aidé mentalement. Bon, arrive la fameuse fin de course. Je ne te dis pas merci, Benoît. En effet, c'était pas simple. Mais bon, j'ai trouvé quand même, malgré tout, que ces replats entre chaque côte, moi, m'ont permis de souffler un peu et de récupérer. L'année dernière, la côte était plus longue et j'avais eu plus de mal. Voilà. Enfin, arrive le dernier kilomètre et demi, où là, je retrouve ma fille, Maëlys, 11 ans, qui m'attendait. Elle m'a, au sens propre, tiré vers l'arrivée. Je suis passé de 6 minutes au kilomètre à moins de 5,30 et même moins de 5 minutes au kilomètre sur les derniers 200 mètres. Elle a de la poigne à 11 ans. voilà, résultat, 3h49, 3 minutes de plus que l'année dernière. Voilà, bah, pour conclure, merci encore pour le dossard. Et puis bah, à la prochaine. Et promis, je n'oublie pas de sourire quand je cours.
Bravo, il est bon ce Yann. Merci Yann. Comme quoi, les marathons, bah, ce sont tous des expériences différentes. Bah, c'est l'occasion pour nous de parler avec vous des stratégies de nutrition aussi. Ça s'est bien passé pour tous les trois. Ouais, il n'y a pas eu de problème.
Oui. Ouais. Aucun problème.
Ouais.
Aucun
problème. C'est bien passé.
Vous aviez tout bossé, j'imagine. Anaïs, tu as la même stratégie depuis des années ?
Moi, c'est un peu aléatoire, c'est au feeling. Hein. Je prends pas de gel.
Ah ouais,
je suis okay. J'aime pas trop tout ce qui est chimique. Donc avant, je courais avec une pomme pote à la main.
À l'ancienne.
Ouais, j'aimais bien parce que c'est vraiment quelque chose que j'aimais bien manger, ça passait tout seul. Et okay. Maintenant, je prends des sticks de miel Happy Run et j'aime beaucoup.
Ah, donc vraiment pas de gel, ok.
Non, pas de gel.
Ok. Mehdi, toi aussi de la pomme pote ?
Non, pas la pomme pote, ouais. Mais j'avais un stick de gel de miel Happy Run dans le short au cas où en cas de coup dur.
Ouais.
Mais j'en ai pas eu spécialement besoin. Après, moi, on a une boisson avec un partenaire qu'on a qui est Affisport. De la marque Hydr'Energy et c'est tout ce dont on a besoin, des sels minéraux, un peu de glucose et tout.
Que de la boisson, pas de gel alors ?
Je prends des gels, mais des demi-gels et pas avant le 30e kilomètre parce que en fait on se dit, on sait jamais comment le corps va réagir avec le gel. Si ça se passe mal, vaut mieux qu'on soit proche de l'arrivée, on sait jamais.
Ouais, ok.
Et petite astuce de marathonien, moi je prends toujours un ou deux Smecta avant la course.
Oui, ça tu nous l'avais dit. Ouais.
Ça mange pas de pain. on ne regrette jamais d'avoir pris un Smecta, mais on peut regretter de ne pas l'avoir pris.
Ouais, ça c'est vrai, c'est l'info qu'il faut retenir, c'est vrai. Faustin, toi ?
Bah, moi j'ai eu la chance aussi en fait d'avoir les ravitaux élites
comme
Mehdi, ouais, grâce à Mehdi. Donc du coup bah, j'ai pu mettre ma boisson dedans et bah, j'ai privilégié que la boisson, pas de gel.
Ok.
Voilà. Après, si j'avais peu de boissons énergisantes, j'aurais peut-être pris des gels parce que j'aurais été à l'eau.
Okay.
Mais là, bah, j'ai privilégié juste la boisson.
Il est sympa ce traître, finalement.
Quand il veut.
Ouais, d'accord. Allez, passons tout de suite à la séance.
RMC, la séance.
Bon, on a beaucoup débriefé. Parlons vite fait des conseils pour tous les marathoniens qui nous écoutent. Yodu, la phase de reprise. Et alors déjà, on coupe combien de temps ? On pense pas à Mehdi, on pense pas à Faustin, ouais. On pense pas à Anaïs. Pensons aux coureurs lambda comme moi, les coureurs du dimanche. On coupe combien de temps après un marathon alors ?
Je crois qu'il faut oublier tout ce que a dit Mehdi et Faustin. Ça, ouais. Ce sont des choses faites par des professionnels, voilà, et il ne faut pas les reproduire chez vous. Ouais, voilà. Ouais. Exactement. Non, bah moi, enfin, tu le vois bien, hein, la façon dont je privilégie le truc, c'est de couper quand même au minimum 15 jours sans course à pied, hein, peu importe si la performance elle a été bonne ou mauvaise. Ce qu'il faut, il faut récupérer du marathon, mais il faut aussi récupérer de la préparation marathon qui est quand même souvent lourde, hein, c'est souvent 3-4 mois de prépa, donc je demande toujours aux athlètes de ne pas courir pendant 15 jours et de privilégier à la limite des activités physiques différentes, hein, le vélo, la natation, la randonnée, la marche, voilà, ce que vous voulez, mais pas de course, quoi. Et après, c'est très personnel, hein. Il y en a qui vont avoir du mal à couper comme ça pendant 15 jours. D'autres, il va falloir leur 2 mois avant de s'y remettre. Ouais. Mais 15 jours, pour moi, c'est vraiment un minimum.
Après, si
avant
tu veux...
de reprendre, par du footing.
Si tu veux vraiment reprendre, ce que j'allais dire, c'est surtout sans allure.
C'est que du footing, ouais. De l'endurance fondamentale, des trucs à la motivation, tu vois. Tu pars et puis tu te dis, allez, je vais faire 10 kills en bord, un petit parcours sympa, tu vois, un truc... ça doit être fait au feeling, hein. Tu dois pas avoir un plan d'entraînement avec 2 séances de fractionné ou quoi que ce soit, hein. Tu pars avec tes potes ou autre, mais c'est vraiment de la sensation et c'est la motivation qui va te guider un peu dans ta reprise, ouais.
Parce que je mets la garde républicaine de côté, donc Guigon et frère, si on parle avec toi Anaïs, toi tu mets pas trop d'allure pour l'instant, tu fais du footing mais c'est plus de la récup comme ça, de la récup longue en fait.
Ah oui, bah moi je fonctionne beaucoup à la sensation et au feeling justement, donc... Même si on a un plan d'entraînement qui est en reprise progressive, avec des petits footings et beaucoup d'endurance fondamentale, ben, je fonctionne vraiment à la sensation.
C'est-à-dire, l'allure, tu vas la réintégrer à quel moment? Tu te donnes pas de date particulière? C'est quand tu sentiras que ton corps a récupéré?
C'est mon père qui fait mes programmes d'entraînement.
Ouais.
Et lui, il était plutôt sur 10 jours avant de commencer à remettre des séances. Mais moi, je suis beaucoup dans la négociation, donc dès l'instant où je me sens bien, là, j'ai déjà demandé. Par exemple, j'ai vu que les gars avaient une séance ce week-end, j'ai dit « bon, si les jambes vont bien, je peux la faire avec eux ». Il m'a dit « bon, tu fais au feeling, si tu te sens bien, tu la fais avec eux, mais tranquille, quoi ».
Il est conciliant, Jean-Yves, quand même. Ça va de temps en temps.
Ouais.
Bon,
bah, sinon, c'est un peu dur pour lui aussi. Hein.
Ouais, c'est sûr.
C'est mon papa aussi. Donc,
oui, c'est sûr. Yodu, tu as d'autres conseils à donner à ceux qui aimeraient s'y remettre?
Moi, au-delà de ces 15 jours sans course à pied, voilà, la reprise, les 15 jours suivants, ça doit être vraiment fait de façon progressive, sans objectif, avec pour moi que du footing et peut-être commencer à remettre un peu d'intensité, mais via des trucs en nature, sur du 30-30 ou un peu de tempo, mais pas aller faire 10 fois 1000 au carton sur la piste en pointe. Je trouve
pas
ça,
de cross, quoi.
Pas ça logique. Ouais. Mais surtout, c'est parce que voilà, y a un risque de blessure malgré tout, même si on le sent pas. Et si aujourd'hui les chaussures font qu'on a l'impression que musculairement, on est quand même bien moins dégradé qu'à l'époque, il y a quand même une fatigue physique et tu sais, cette fatigue de fond qui fait que bah, t'es un peu lassé. Donc pour moi, il faut vraiment récupérer. Et pour justement éviter toutes ces blessures. Et puis après, se lancer des nouveaux objectifs, mais pas avant 2-3 mois. Tu vois, se dire mon prochain objectif, ça va être dans 2 mois avec pourquoi pas un 10 kills, un semi ou autre. Ouais. Ça dépend de ce qu'on veut faire, mais pas avant 2 mois, quoi.
Là, on l'a entendu. Donc, Mehdi sera peut-être au monde à Budapest ou alors à Berlin. On ne sait pas encore. Anaïs vise Berlin, elle a déjà son dossard. Faustin, c'est quoi la reprise, la suite?
Oh, ça va être un 10 km, je pense, le 10 km Adidas.
Ouais, le 10 juin. Ouais,
après, je vais faire un trail avec la gendarmerie aussi, gendarmerie voleur de temps. Mais pas des courses très importantes, quoi.
Voilà.
Pas des gros objectifs.
Tu te laisses une période quand même.
Ça sera pour l'automne, je vais faire un semi en automne, peut-être les championnats du monde militaire si je suis sélectionné.
Okay.
Et ça sera le vrai objectif avec le marathon de Valence derrière.
Voilà, magnifique. Un beau programme. C'est travaillé tout ça, c'est costaud. Hein.
Eh oui. C'est bien.
Ouais, c'est bon.
C'est réfléchi.
Allez, passons tout de suite au bon plan matos.
RMC, le bon plan matos.
Et ce sont les chaussettes à l'honneur cette semaine. On met en avant la marque X-Sox, chaussettes de sport spécialisées dans le running, le trail et la randonnée. Pour en parler avec nous, on est avec Thomas qui est responsable produit chez X-Sox. Bonjour Thomas.
Et bonjour à vous, ça va bien?
Bienvenue Thomas, comment ça va?
Bah, impeccable.
Thomas, grand runner, donc là entouré de champions, ça vous fait quelque chose Thomas?
Bah ouais, je me dis que je suis tout petit en fait. Parce que bon, écoutez les premiers podcasts sur les préparations du marathon... Je crois que c'était le 11 mars où il y avait déjà Mehdi. Ça va vite là. Moi, je viens d'un territoire où il y a plutôt des montagnes, un peu plutôt du trail. Donc la route là, ça va très vite.
Eh oui, c'est sûr. Bah, parlez-nous de la philosophie chez X-Sox. C'est quoi l'histoire de la marque alors?
Ouais, c'est une marque qui a plus de 20 ans, qui est hyper innovante dans l'univers de l'industrie du sport. C'est une marque suisse qui fait fabriquer en Italie. On a plus de 800 brevets dans le monde autour de nos produits. Nous, on considère la chaussette aujourd'hui toujours comme un produit ultra technique. C'est la première fois en contact avec le pied. Et voilà, c'est pas un accessoire chez nous, c'est vraiment quelque chose sur lequel on y met de la technicité, on met des renforts voilà, sur malléole, ouais. Tendon d'Achille, les orteils, un peu de respirabilité sur le coup de pied, sur le dessous du pied. Donc ouais, c'est vraiment un produit technique à part entière chez nous.
C'est quoi la différence entre une paire de chaussettes running et une paire trail?
L'épaisseur, souvent la hauteur. La hauteur, elle monte un petit peu plus haut, la chaussette trail. Et après, enfin, voilà, nous, sur la chaussette trail, on va être comme sur la Marathon Energy, notre top de gamme en run, on va être sur un produit ultra résistant à l'abrasion parce qu'en général, c'est un peu long et ça frotte et il faut qu'on ait un produit durable.
Tous les champions autour de la table, là, vous faites gaffe aux chaussettes. Vous avez toujours la même marque, la même perle. C'est toujours la même chose.
Non, moi, je pioche au hasard.
Pareil. Au hasard, c'est vrai.
Donc, il y aura chaussettes. Ouais, je fais pas assez attention à ce genre de truc.
Anaïs.
Ouais, moi, j'ai mes petites chaussettes fétiches. Hein. J'aime bien quand il y a des couleurs, des petits trucs et comme voilà. Ça. Mais sinon, je fais pas spécialement attention. C'est plutôt pour le côté esthétique.
Ouais. Toi, Yodu.
Non, je fais attention quand même. Mais j'aime bien le côté esthétique, c'est noir ou blanc, moi.
Voilà.
J'aime
pas pas d'excentricité.
Non.
Ok.
Pourtant, il met pas des shirts roses parfois dans.
Yodu, si, ouais, il met de la couleur. Mais un peu, il a pas le choix parce que.
À mon maillot.
Ouais, le problème d'Azix, c'est que souvent les Metaspeed sont fluo. Donc voilà, il est obligé de mettre du fluo.
On est obligé de mettre du fluo.
C'est ça. On parlait de hauteur de chaussettes, du coup, Thomas. Il y a trois hauteurs, c'est ça? C'est les sockets, les.
Ouais, il y a juste au-dessus de la malléole et après, on en a une. On appelle crew, qui est un peu plus haute.
Ouais. C'est quoi la durée de vie d'une paire de chaussettes, à peu près?
Bon, on va dire que les nôtres, elles sont un petit peu plus chères que les autres et qu'elles durent deux fois plus longtemps. Donc, ça va dépendre de la fréquence d'entraînement. Mais je pense que 6 mois avec les nôtres, pour quelqu'un qui tape dedans, ça doit le faire.
Ah ouais, c'est bon. Donc, mes 10 frères, il peut les mettre 6 mois avec 250 bandes par semaine.
Si je les perds pas.
Ça serait bien de faire un crash test.
Ah voilà, c'est le bon client. Ou d'un camp. On donnera d'un camp, tiens. Ah, on fera ça.
Ça tombe bien, il n'y en a jamais d'un camp. Donc il nous pique les nôtres souvent. Donc, hein.
Ah voilà, bah, en plus, il n'a jamais de paire de chaussettes sur lui. Vous parliez de prix. C'est quoi la gamme de prix des X-Sox alors, du coup, Thomas?
On va être sur 20, 25 et 28 euros.
Ok, donc, ouais, ça reste. C'est la fourchette haute, mais ça reste accessible, quoi. Ouais, si ça dure 6 mois.
Oui, mais justement, ouais. Nous, on se revendique plus durable que les autres. Donc,
d'accord.
C'est aussi pour ça qu'on est un petit peu plus cher.
Bon. Thomas, on met quel modèle en jeu, là? Parce que vous me l'avez dit, est-ce qu'on peut le répéter, du coup? Quel modèle on met en jeu?
C'est la Marathon Énergie.
Voilà, Marathon Énergie. Voilà, parfait. Ça colle parfaitement à l'épisode du jour.
Le top de gamme sur le run.
Eh bien, super. Merci, Thomas. Je vous remercie beaucoup d'être venu dans RMC Running. 5 paires à gagner pour toute la commu RMC Running. Vous laissez votre adresse mail sur nos réseaux sociaux. Et le test d'écoute cette semaine, ben voilà, vous nous indiquez quel est votre prochain objectif en course à pied. Voilà, tout simplement. Et comme ça, vous faites partie du tirage au sort. Merci, Thomas. À bientôt.
Merci à vous. À bientôt.
Et puis, je vous le disais, on a un bon plan matos également, un bon plan dossard, Yodu, on est vraiment complet, hein, on gâte ceux qui nous écoutent.
Tout.
Le semi-marathon de la Loire à Saumur, c'est le 14 mai, allez. C'est sur les bords de Loire, c'est très sympa, c'est fait pour aller chercher un chrono là aussi. C'est des mesures officielles par les juges FFA, donc c'est une course qui compte. Ravitaillement tous les 5 km, des points d'épongement également. Voilà, donc vous pouvez vous faire plaisir, il y a des animations tous les kilomètres, donc là aussi une belle ambiance à attendre le 14 mai. Si vous voulez participer, ben voilà, vous nous indiquez que c'est pour la course et vous laissez là aussi votre adresse mail. On remercie tous les champions qui ont été avec nous. On remercie Anaïs Kemener, évidemment. On remercie Mehdi Frère.
Merci à toi.
Faustin Guigon. C'était un plaisir de passer ce moment avec vous. On remercie Greg Vermerch de Strava, qu'on va mettre sur marathon celui-là aussi, parce qu'il analyse, mais il faut qu'il y aille un moment sur marathon.
C'est obligatoire.
Ah ouais.
On pensait qu'il était déjà nous.
Alors, vous savez ce qu'il fait aujourd'hui, le jour de la sortie de l'épisode? Il fait le Paris-Roubaix Challenge en vélo, là.
C'est
un autre délire.
Ça marche aussi.
Bon, on te souhaite bon courage en avance, Greg. Hein. Prévois un caouet, parce qu'à mon avis, la boue, ça va être sympa.
Non, mais j'ai un marathon prévu.
Quand? Bah, où?
Ah, je suis obligé d'annoncer. Je ne l'ai même pas annoncé à mon équipe. Je voulais le garder un peu secret, mais je.
Allez, c'est le Médoc.
Je fais le marathon de New York cette année.
Ah, magnifique. Ouais. Marathon de New York, bah voilà, tu choisis les beaux endroits. Bravo. Écoute, c'est dur, hein, le marathon de New York. Donc, prépare-toi bien. Écoute RMC Running. Et puis, comme vous étiez trois, on n'a pas pu vous demander votre musique préférée. Du coup, c'est notre excellent producteur, Geoffrey Charles. Qui a choisi, je ne suis pas responsable.
Il a pas l'air serein.
Je ne suis pas responsable de ce choix musical, Yodu. Il a choisi Joe Dassin. Mehdi, c'est ta cam, j'ai l'impression, Mehdi.
Bah, bien sûr.
Ah, voilà, t'es là. Ok. Ça te plaît, Naïs, ça va?
Ça me plaît.
Bon, bah, ça va. Et bah, merci à tous une nouvelle fois d'être venus. Vous êtes les bienvenus rapidement dans RMC Running. Anaïs, quand tu auras fait les minima olympiques, tu pourras revenir. Toi aussi, Mehdi. Faustin, quand tu seras champion du monde militaire, tu reviendras aussi. Voilà, comme ça, vous êtes les bienvenus, quoi qu'il arrive, dans RMC Running. Merci, coach Yodu. Bon stage, hein, à Font-Romeu.
Merci.
Et puis, toujours ce même conseil pour terminer, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées.